L'histoire est comme un clin d'œil furtif aux conséquences parfois inattendues. Clin d'œil à l'histoire,
une émission présentée par Raphaël
et Ben le samedi matin à 11h
sur Radio Bartas 107FM.
Personne ne pensait qu'un jour de 1769, un enfant qui allait naître en Corse dans une famille de petite noblesse allait devenir 32 ans plus tard l'un des plus célèbres hommes de l'histoire mondiale. Voilà 200 ans que Napoléon est mort et à cette occasion, nous allons nous attacher dans ce clin d'œil à l'histoire à retracer le destin de cet empereur qui, encore aujourd'hui, sans que nous y prêtions attention, fait encore partie de notre paysage politique et sociétal.
Ce siècle avait 2 ans. Rome remplaçait Sparte. Déjà, Napoléon perçait sous Bonaparte. Et du premier consul, déjà, par main d'endroit, le front de l'empereur brisait le masque étroit. Victor Hugo, dans les feuilles d'automne, 1831.
Clin d'œil à l'histoire, 7e épisode, partie 1, Napoléon de sa naissance au consulat.
Le 15 août 1769, naît un garçon, un certain Napoléone Buonaparte, le plus connu sous son nom francisé Napoléon Bonaparte, ou mieux encore, sous son nom de règne, Napoléon Ier. L'incertitude plane sur le lieu de naissance, quelque part dans le maquis corse ou dans la maison familiale d'Ajaccio. Elle plane aussi sur la date de naissance exacte du futur empereur des Français. La date officielle, qui coïncide avec la date de l'Assomption, relève d'une propagande tardive. 1769. La Corse est française depuis à peine un an. Auparavant, l'île de Beauté appartenait à la République de Gênes. En juillet 1768, à la suite du traité de Versailles, la France rachète à Gênes ses droits sur l'île. En fait, au départ, il s'agit seulement d'une délégation. Et oui, la France est chargée d'administrer la Corse durant 10 ans et de la pacifier. Le 15 août 1768, Louis XV proclame officiellement la réunion de la Corse à la France et mésestime cependant la résistance corse. En effet, avant 1768, la Corse sort de 40 années de révolte armée contre la République de Gênes.
Lorsque la France arrive en Corse, s'ensuit alors des années de répression. Le comte de Vaud, représentant du roi, ordonne aux troupes de n'épargner ni les moissons, ni les vignes, ni les oliviers de ceux qui refuseront de se soumettre. Les cadavres sont exposés à l'entrée des villages et nombre de déportés sont envoyés au bagne de Toulon. Voilà donc le contexte dans lequel naît Napoléon. Il est le deuxième enfant de Charles et Letizia Buonaparte. Cette famille de la petite noblesse corse est d'origine italienne, d'où son nom. Buonaparte en français signifie bon parti. Les fortes affinités de Napoléon avec l'Italie sont à l'origine de sa future grande popularité dans ce pays. Napoléon a une enfance plutôt solitaire et il est de caractère belliqueux. Le naturel ardent et batailleur de Napoléon, il a l'habitude de participer aux échauffourées qui opposent les enfants des différents quartiers d'Ajaccio et attire le surnom de Ribullione, le perturbateur. Grâce à l'appui du gouverneur français de l'île, le comte Louis de Marbeuf, Napoléon et son frère Joseph reçoivent une bourse pour étudier au collège d'Autun, à côté de Chalon-sur-Saône, en 1778, puis à l'école militaire de Bienne l'année suivante. Napoléon ne laisse pas un souvenir particulier à ses maîtres. Contrairement aux affirmations tardives de la propagande, on sait cependant qu'il manifeste de bonnes dispositions en mathématiques et un goût certain pour l'histoire. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'il doit faire de gros efforts pour maîtriser la langue française, se débarrasser de son accent et échapper aux moqueries de ses condisciples.
En septembre 1796, il a tout juste 16 ans et il est nommé lieutenant en second d'artillerie au régiment de la Fère. Pendant de longues années, il traîne son ennui de garnison en garnison, dévorant livre sur livre, se passionnant pour la pensée philosophique de Rousseau et rêvant surtout d'un destin national, mais en Corse, aux côtés du chef nationaliste Pascal Paoli. La prise de la Bastille et les débuts de la Révolution française l'indiffèrent. Obtenant de longues permissions en Corse, auprès de sa famille, il se fait élire lieutenant-colonel de la garde nationale d'Ajaccio et devient une sommité insulaire. Il en vient pourtant à se brouiller avec Paoli. Sa rupture avec lui, dont les partisans mettent à sac la maison de Napoléon, Bonaparte, l'oblige à fuir l'île avec les siens en 1793.
Désormais, faute de pouvoir faire autrement, c'est en France qu'il tracera sa voie.
Eh oui, tandis que sa famille s'installe près de Toulon, Napoléon, lui, rejoint son régiment à Nice. Après une mission à Avignon, il se voit confier par la Convention le commandement de l'artillerie devant Toulon, avec le grade de chef de bataillon. Sous les ordres du général Jacques Dugommier, Bonaparte prend une part décisive à l'expulsion de la flotte anglaise grâce à ses talents d'artilleur. Il se bat aux côtés de futurs maréchaux ou généraux d'empire comme Jean-Andoche Junot, André Masséna, Louis-Gabriel Suchet ou encore Claude-Victor Perrin. Il est récompensé de ses hauts faits par le grade de général de brigade.
Concernant la vie politique intérieure, Napoléon se rapproche des partisans de Robespierre, dont il défend les idées dans un petit écrit, le souper de Beaucaire. Mais ses relations avec les Jacobins le compromettent après le 9 Thermidor, c'est-à-dire la chute de Robespierre en juillet 1794. Il est même emprisonné un temps. Plus tard, il se lie avec Barras pour préparer la future campagne d'Italie. En octobre 1795, ce dernier pense à lui lors des troubles royalistes qui profitent de l'affaiblissement du directoire. Il est chargé notamment de réprimer l'insurrection des sections royalistes installées à Paris. Secondé par Guillaume, Marianne Brune et Joachim Murat, Bonaparte vient à bout le 13 Vendémiaire, soit le 5 octobre, de quelque 25 000 insurgés. Cela lui vaut, outre le surnom de général Vendémiaire, le grade de général de division et le commandement en chef de l'armée de l'intérieur.
Clin d'œil à l'histoire
sur Radio Bartas 107 FM. En mars 1796, le directoire, dominé par Paul de Barras, confie au général Bonaparte le commandement en chef de l'armée d'Italie. Avant son départ, Napoléon épouse à la mairie du 2e arrondissement Joséphine de Beauharnais, une créole veuve de général. La campagne d'Italie débute avec l'arrivée de Bonaparte à Menton le 2 avril 1796. Son premier discours à ses troupes, à Nice, révèle des exceptionnelles qualités de meneur d'hommes. « Soldats, vous êtes venus mal nourris, je veux vous conduire dans les plus fertiles plaines du monde. » Et dès le 10 avril, il passe à l'offensive contre l'armée autrichienne. Les combats victorieux se succèdent, le 12 à Montenot, le 13 à Millesimo, le 15 à Dego, le 21 à Mondovie. Le 28, les Sardes s'avouent vaincus. Les envoyés du roi Victor Amédée III signent l'armistice de Cherasco, prélude du traité de Paris. Se lançant alors à la poursuite des Autrichiens en fuite, Bonaparte entre à Plaisance le 7 mai après avoir passé le Pô. Trois jours plus tard, c'est la victoire de Lodi et le 15, l'armée française entre à Milan. Les réquisitions en argent, en œuvres d'art et fournitures militaires se succèdent, entraînant une insurrection de la population du Milanais. La répression faite par Bonaparte est impitoyable. Durant les semaines suivantes, Bonaparte agit depuis Milan en quasi-souverain. Il conclut des traités avec Naples, avec le duché de Parme et le Saint-Siège. Durant le même temps, il entame le siège de la ville de Mantoue, dont la chute est nécessaire à ses projets d'attaquer l'Autriche par le Tyrol. Mais le 26 juillet, Dagobert von Wurmser, le nouveau général en chef autrichien, passe à l'offensive. Le 30, Bonaparte lève le siège de Mantoue et se porte au-devant de ses adversaires qui ont commis l'erreur de diviser leurs forces. Le 3 août, André Masséna bat un de leurs corps à Lonato. Le 5, le second subit une autre défaite à Castiglione. À nouveau battu le 8 septembre à Bussano, Wurmser se réfugie dans Mantoue. Les Autrichiens lancent une nouvelle offensive le 1er novembre 1796 sous le commandement du général Joseph Alvinsky von Borbereck. Après trois succès initiaux, celui-ci est vaincu le 17 à Arcole, la fameuse bataille d'Arcole, après trois jours de combat.
En mars, Bonaparte prend la direction de l'Autriche. Une suspension d'armes conclue le 7 avril débouche sur la conférence de Leuben entre Bonaparte et les Autrichiens, qui aboutit le 18 à la signature des préliminaires de paix de Leuben. Bonaparte se tourne alors vers Venise, qui est occupée le 15 mai et qui doit à son tour, en vertu du traité signé le 16, fournir argent, vaisseaux, tableaux et manuscrits avant de recevoir une nouvelle structure administrative. Le reste de l'Italie du Nord subit lui aussi une réorganisation complète. République ligurienne proclamée à Gênes le 17 juin, République cisalpine à Milan le 9 juillet. Toutes ces décisions sont prises sans guère consulter le gouvernement français, auquel le général envoie même quelques courriers menaçants. Il en va de même des négociations entamées le 25 mai avec l'Autriche et qui aboutissent le 17 octobre au traité de paix de Campo Formio. Napoléon Bonaparte, désigné comme représentant plénipotentiaire de la République française, se rend ensuite au congrès de Rastatt, relatif à l'occupation de certaines régions d'Allemagne par la France. Il y séjourne du 27 novembre au 1er décembre, le temps de signer une convention d'évacuation des pays vénitiens par les troupes françaises de la rive gauche du Rhin, par celle de l'empereur d'Allemagne. Le 5 décembre 1797, il est de retour à Paris.
Clin d'œil à l'histoire
sur Radio Bartas 107 FM.
Nous l'avons vu, les relations entre Napoléon et le Directoire sont exécrables. Le premier ne songeait qu'à faire tomber ce gouvernement, qu'il méprisait, et les autres tenaient absolument à l'éloigner pour éviter qu'il ne prenne trop de place. C'est pourquoi le Directoire lui propose de prendre la tête d'une armée censée attaquer l'Angleterre. Mais Ichy refuse. Il propose, quant à lui, d'attaquer l'Égypte, de manière à fragiliser les positions anglaises de Méditerranée orientale, leur couper la route des Indes et intercepter le contrôle des routes commerciales. En cela, Napoléon pense déjà à isoler la Grande-Bretagne du reste du monde.
Et voilà que finalement Bonaparte part pour Toulon, afin de superviser en personne les préparatifs de cette expédition. La flotte appareille le 19 mai en portant un corps expéditionnaire de 37 000 hommes. Elle s'empare en chemin de Malte, hein, du 10 au 13 juin, et touche les côtes égyptiennes le 1er juillet. Bonaparte débarque au milieu de la nuit. Le lendemain, les Français entrent dans l'Alexandrie. Le 21, ils détruisent les Mamelouks lors de la bataille des Pyramides. Et le 25, ils prennent le Caire. La situation se dégrade subitement les 1er et 2 août 1798 avec la défaite navale d'Aboukir, autrement appelée la bataille du Nil. Les Français sont prisonniers de leur conquête. Cela ne les empêche pas de l'organiser. L'Institut d'Égypte est créé le 22 août. Le 29 août, paraît le premier numéro du Courrier de l'Égypte. Le 4 septembre, Bonaparte décide que tous les habitants de l'Égypte porteront la cocarde tricolore, que le plus haut minaret du Caire et celui de chacun des chefs-lieux des provinces porteront le pavillon français. Mais le 21 octobre 1798 se produit une révolte de la population du Caire. En effet, le général Dominique Martin Dupuis, gouverneur de la ville, est tué, ainsi que l'aide de camp préféré de Bonaparte, le capitaine Joseph Sulkowski. La répression immédiate et sanglante a tout fait de ramener le calme. Une nouvelle armée turque débarquée par la flotte anglaise le 17 juillet 1799 est battue le 25 à Aboukir. C'est la dernière victoire de Bonaparte en Égypte. Le 22 août, il s'embarque pour la France. Le 29 septembre, il mouille en rade d'Ajaccio et débarque le lendemain dans sa ville natale où il est reçu en héros. Il repart le 7 octobre. Le 9, il accoste à Saint-Raphaël. Le 16, il est à Paris.
Clin d'œil à l'histoire
sur Radio Bartas 107 FM.
Après son retour à Paris, Napoléon est enfin en mesure de mettre en place le coup d'État qu'il avait déjà anticipé depuis de longues années. Et c'est avec Emmanuel-Joseph Sieyès qu'il réalise ce coup d'État le 9 novembre 1799. Plus difficile à réaliser que prévu, il laisse Bonaparte maître de la situation.
Crois-tu que ton frère pourra réunir suffisamment de députés pour faire procéder à un vote ?
Oui, il a encore suffisamment de partisans. Quel que soit le résultat, il sera parfaitement légal.
Les députés ont dissous le directoire. Ils créent à sa place une commission consulaire exécutive composée du général Bonaparte et des citoyens Sieyès et Roger Dupont. Tous trois porteront le titre de consul de la République française. Le décret prend effet immédiatement. Officiers, faites présenter les armes au consul de la République.
Présentez-les. Aux ordres.
Vive Bonaparte.
Nommé premier consul, il repousse le projet de constitution imaginé par Sieyès et en fait adopter un autre qui lui donne tout pouvoir, le 15 décembre. Dès le 24, il est assez fort pour éloigner Sieyès et le remplacer par Jean-Jacques Régis de Cambacérès. Charles-François Lebrun, lui, prend la place de Roger Ducos. Bonaparte prend pendant ses premières semaines de pouvoir une série de mesures visant à affermir le régime et refermer les plaies les plus profondes ouvertes par la Révolution. Abrogation de la loi permettant de prendre des otages parmi les parents d'émigrés et les scier devant nobles. Annulation de la déportation de certaines catégories de prêtres. Signature d'un armistice avec les Vendéens. La mise en place des institutions nouvelles se poursuit durant les premiers mois de 1800. Limitation du nombre de journaux parisiens, création de la Banque de France, organisation tenue secrète d'une armée de réserve de 60 000 hommes sous le commandement direct du premier consul, loi portant sur la nouvelle organisation administrative de la France, elle craint en particulier les préfectures, loi sur la nouvelle organisation des tribunaux. Parallèlement, les mesures d'apaisement, renforcées encore en ce début d'année par la clôture de la liste des émigrés, produisent leurs effets, amenant la soumission des Vendéens et de nombre de chefs royalistes.
Voilà donc la première partie, les premières mesures mises en place par le consul de Napoléon. Et c'est pas fini. Dans un an à peine, il se couronnera empereur des Français. De la gloire à sa chute en 1815, puis sa mort en 1821, ce sera le prochain épisode de Clin d'œil à l'histoire.